une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
Je sais pas quoi penser, je sais pas qui croire. Là. Dans Le Devoir, on titre « Situation moins grave que prévu aux soins intensifs ce week-end ». Ailleurs, on dit que ça va pas bien, ça s'est pas vraiment amélioré, c'est juste ça n'a pas juste autant empiré que prévu. Je pose la question au docteur Joseph Dahin, qui est intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé, c'est à Laval. Docteur Dahin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, comment ça s'est passé chez vous ce week-end finalement?
Ben c'est occupé aux soins intensifs dans la mesure où, comme d'habitude, on essaie toujours de faire de la place pour le prochain patient qui a besoin de nous, là, d'être intubé, d'avoir de la ventilation mécanique. Puis c'est toujours un peu un défi parce que la marge de manœuvre, elle est créée soit par des patients qu'on avait déjà qui s'améliorent ou malheureusement des patients qui décèdent. C'était le cas cette fin de semaine. Puis quand vous avez des manchettes comme celle-ci qui disent que c'est pas si pire, ben, ouais. C'est pas si pire parce qu'on annule des chirurgies. On n'a jamais eu ça dans les hivers précédents, devoir ralentir toutes les autres activités de l'hôpital pour être capable, en guillemets, de sauver les soins intensifs. Il faut prendre ça avec un gros grain de sel.
Puis vous et votre équipe, là, comment la question est banale, là, mais je pense que comment allez-vous?
Non, je pense. Honnêtement, vous identifiez la priorité numéro un, selon moi, du réseau de la santé. C'est nos travailleurs, leur morale, leur énergie. On est épuisés. Ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, en train de courir une espèce de marathon dont on ne cesse de repousser le fil d'arrivée. Donc, c'est extrêmement drainant au niveau de l'énergie. En plus, les choses que d'habitude on utilise pour nous ressourcer, comme notre vie de famille, par exemple, ça c'est complètement bousillé parce qu'on nous met toujours des réunions très tôt le matin ou tard le soir pendant l'heure du souper ou l'heure du bain chez les enfants. Il n'y a plus de frontières entre la vie personnelle puis nos rôles professionnels. Et tout ça mène à un phénomène qu'on appelle des blessures morales, c'est-à-dire que les gens qui sont encore sur le terrain le font par gros dévouement, par sens un peu de l'héroïsme, mais ça, c'est un couteau à double tranchant. Non, je pense que vous faites bien de poser la question. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétude pour notre capacité à continuer à en faire toujours plus avec moins.
Quand vous parlez de réunion, là, le matin ou à l'heure du souper ou à l'heure du bain, qui appelle ces réunions-là, puis à quoi ça sert?
Ben, c'est parce qu'on est en gestion de crise. On dit toujours que la situation est catastrophique, donc pour se réunir, pour trouver des nouvelles solutions, discuter de comment on va gérer les activités de l'organisation, exactement. Sauf que le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'on est en crise. Donc c'est correct quand tu parles des nuits blanches avant un gros contrôle, avant un gros examen, mais là, c'est la pandémie, ça fait partie de nos vies quotidiennes, donc les sacrifices qui sont demandés, selon moi, ils sont plus nécessairement dans le spectre de ce qui est acceptable pour quelqu'un à tolérer. Et j'ai beaucoup d'empathie en disant ça à vraiment tous ceux qui ont un rôle à jouer. Oui, il y a les soignants, il y a les décideurs, mais les politiciens là-dedans, il y a les journalistes, il y a la population, beaucoup d'entre nous occupons un rôle dans lequel ce genre de... c'est devenu notre réalité et puis on en fait payer, je pense, nos familles, nos amis, nos loisirs, puis c'est pas bon pour la santé mentale.
Docteur Dahin, on a parlé beaucoup de... tu sais, des non-vaccinés, puis la place qu'on prend, le ministre Dubé en a parlé aussi. Quand vous avez quelqu'un aux soins intensifs, puis j'aimerais ça que vous confirmiez ou non, là, est-ce que c'est vrai que c'est un patient COVID aux soins intensifs qui occupe un lit entre 10 et 12 jours?
Absolument. Il y a des études, les gens pourront les confirmer, les chiffres avec des études qui ont été faites au pays par l'Institut canadien de l'information sur la santé, ou CIHI en anglais, CIHI. Oui, les durées de séjour moyennes et médianes sont à peu près de 2 semaines là, pour un patient qui est intubé aux soins intensifs avec la COVID.
Ça veut dire que tous les autres patients, il y a un patient qui occupe un lit pendant 10 à 12 jours, mais les autres patients, là, après des chirurgies, ils n'occupent pas des lits pendant 10 jours, c'est une ou deux journées?
La moyenne de séjour aux soins intensifs est de 3 jours d'habitude pour la plupart des conditions. On a beaucoup de clientèles différentes aux soins intensifs. Il y en a que c'est surveillé après une grosse chirurgie. D'autres, c'est vraiment réanimé parce qu'ils sont en arrêt cardiaque. Fait qu'évidemment, il y a une grosse variabilité. Mais en moyenne, on a des durées de séjour beaucoup plus courtes. Avec la COVID, c'est quasiment c'est devenu la règle, là. C'est-à-dire que ça nous a appris beaucoup de patience. Les malades, les poumons sont malades, et ils sont malades longtemps. Il faut vraiment attendre que la cascade inflammatoire diminue avant de commencer à retirer le support mécanique que nous on leur donne ou le support oxygénatoire qu'on leur donne. Oui. Et chez beaucoup de patients, parce qu'il y a une présentation tardive, il y a déjà de la fibrose qui s'est installée. Donc, ça prend beaucoup de temps avant de diminuer l'oxygène qu'on leur donne. Donc, c'est pas rare. Écoutez, j'ai des patients qui sont là depuis septembre encore, là, aux soins intensifs.
Depuis septembre? Je suis allé voir votre vidéo là, puis pour expliquer les scans, les poumons, le syndrome respiratoire aigu. Là, vous expliquez ça, puis vraiment, vous parlez des sécrétions, les stéroïdes. Vous parlez de la peur finalement du vaccin. Vous parlez de mettre en équilibre face à ça la peur des complications. Est-ce qu'on est rendu à utiliser la peur pour faire comprendre les véritables conséquences de ne pas se faire vacciner?
Mais c'est pas autant un moyen, là. Je veux certainement pas aller verser dans la démagogie ou insulter l'intelligence des gens. C'est juste que c'est un argument qu'on a souvent entendu de patients qui sont présentés chez nous aux soins intensifs. Ils avaient peur du vaccin. Ils sont fiés sur des mauvaises informations. Puis quand ensuite ils réalisent les conséquences de la maladie sur leur santé, là, qu'ils viennent de mettre en Gépardie pour le plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être pour certains de façon permanente, là. Ils se disent, mon Dieu, j'aurais dû avoir davantage peur de cette maladie, je l'ai banalisé. Et encore là, le but, c'est pas d'aller dire tout le monde va attraper la COVID et avoir besoin de venir à l'hôpital, d'avoir besoin de l'oxygène, de venir aux soins intensifs. C'est sûr que c'est la minorité. Mais la question, pour moi, elle est simple. C'est pourquoi jouer à la roulette russe avec votre santé et potentiellement avec votre vie, lorsque le vaccin, ça prévient ces complications-là et puis c'est sécuritaire. Donc, pour moi, la question d'un point de vue du moins mathématique là au niveau du risque, elle est évidente. C'est sûr que les gens devront prendre leur propre décision, mais c'est important pour moi au moins de montrer avec des images quand on dit les soins intensifs. C'est quoi les soins intensifs? Juste au moins pour contextualiser.
Mais je voulais pas, mais jamais je pensais que vous tombiez dans la démagogie, mais au contraire, c'est voici la réalité. Voici la réalité des conséquences de ne pas vous faire vacciner, de ne pas comprendre quel est l'état d'urgence, là, puis à quel point le personnel est à bout. Mais quand, parce que tout ça reste des mots, mais quand vous arrivez avec des images puis des explications médicales, des conséquences, je trouve que ça frappe. Je trouve que c'est assez convaincant, probablement plus que plusieurs discours.
J'ai eu beaucoup de rétroactions positives après cette vidéo-là, puis ça me réjouit parce que tu sais, c'est sûr que ça prend du temps les faire, mais pour vrai, on est content. On le fait souvent en équipe sur mon unité, puis ça vient rejoindre effectivement une des choses qu'on entend souvent. Là, je vous fais une anecdote rapidement. Je suis allé porter mes enfants à la garderie ce matin, puis l'éducatrice m'a demandé, hey, vous voyez souvent là dans les médias, mais c'est quoi un intensiviste? Donc au-delà des mots, effectivement, c'est pas encore concret pour beaucoup de gens là, ce qu'on fait dans la vie et notre rôle qui est crucial dans la mesure où les patients qui ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on leur sauve leur vie. Et puis c'est vrai que de l'autre côté, on a aussi des patients qui nous disent, ben avoir su c'était quoi les soins intensifs. J'aurais peut-être pas voulu m'y rendre.
C'est comme avoir su c'est quoi un traitement de canal, je me serais peut-être brossé les dents plus souvent. Tu sais, il me semble, la vraie vie. Avant qu'on se quitte, je veux pas vous mettre dans le trouble, Dr. Dahin, là, mais on apprend aujourd'hui, Santé Canada, un mois après le FDA, a approuvé cette pilule là, de Pfizer, là, espèce de cocktail, qui réduit de 90% les hospitalisations. De votre point de vue, j'imagine que ça doit être frustrant quand vous lisez ces nouvelles-là, puis dire, hey, y a-tu moyen d'allumer puis d'accélérer le processus parce qu'il y a urgence, là, il y a des gens qui sont réellement malades, il y a des gens qui meurent, puis là, ben, on attend l'évaluation d'une évaluation qui a déjà permis l'utilisation d'un médicament qui serait bénéfique.
Ben, je pense que le plus d'outils on a dans notre coffre à outils pour faire face à la pandémie, le mieux c'est. Donc,
je vous parle de la bureaucratie, là. Je vous parle de gens qui prennent des décisions alors que vous autres, vous êtes sur le terrain, vous êtes en train de pallier à la situation à l'urgence, puis qu'on prend un mois alors que l'évaluation du médicament a été faite par la FDA. Il me semble qu'il y a des fois, tu as le goût de prendre le fonctionnaire et de dire « Hey, ça urge, là. Come on. »
Ben, ça a été un peu un débat similaire par rapport à la vaccination pour les enfants, là. Il y avait un délai entre les États-Unis puis le Canada. Puis honnêtement, moi, j'aime mieux que les processus soient respectés puis qu'ensuite, il n'y a pas personne qui vienne nous le critiquer en disant ils ont autorisé ça trop vite puis ils n'ont pas fait attention puis c'est encore une gamique, là. C'est sûr que dans un monde idéal, on aurait tout ça demain matin. Comme je dis, le plus d'outils dans le coffre à outils, le mieux c'est. Mais en même temps, je suis quand même aussi à l'aise que les processus suivent leur cours pour que, justement, tout se fasse de façon la plus rigoureuse possible, là, puis qu'on soit à l'abri des critiques par la suite.
Quelle leçon tirez-vous de ce qu'on vit présentement?
Voulez-vous la réponse philosophique?
Oui.
Je reviens à ce qu'on a commencé en début d'entrevue là, par rapport à notre bien-être et la santé psychologique, parce que je trouve qu'avec la pandémie, ce qu'on a réalisé là, c'est l'importance des gens dans le réseau de la santé. Tu sais, sans travailleurs de la santé, il y en a pas de système de santé, il y a pas de soins. Moi, pour moi, c'est important de valoriser les gens autour de nous, les gens qui se présentent encore à tous les jours au travail, mais en même temps, ces gens-là, pour moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas non plus avoir une espèce de sacrifice personnel à la héros jour au lendemain, parce qu'il y a personne d'irremplaçable, là. Je veux dire, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Ouais. Et de l'autre côté, moi qui ai des jeunes enfants, des fois je me dis, on a souvent mis de côté notre vie personnelle, là, puis des fois, tu sais, manquer une réunion, le monde va pas s'arrêter, là, le monde va pas arrêter de tourner. Mais manquer, par contre, si t'es pas là auprès de tes enfants, leur monde s'arrête de tourner. Parce que pour eux, on est leur monde, je suis leur monde comme papa. Là, puis c'est important pour nous, pour eux qu'on soit là. Puis ça remet les choses pour moi en perspective. Là. On a plein de rôles à occuper. Puis c'est important de continuer à faire les choses qui nous font du bien.
Très bien, docteur. Joseph Dahin, intensiviste à l'hôpital de la santé, Cité de la santé à Laval. Un gros merci à vous et à toute votre équipe pour, un, le travail, puis deux, pour l'entrevue. Lâchez pas. Bon courage.
Merci pour vos bons mots.